soir. Notez-vous, 6 militaires de la garde républicaine, dont un officier, ont été tués lundi dernier dans une embuscade à la roquette contre leur véhicule à Rougari, territoire de Rutshuru. La rentrée scolaire intervient lundi 7 septembre prochain sur toute l'étendue de la RDC. Tels sont les thèmes de ce soir dans Tribune de la Presse. Nous avons autour de cette table Martel Ngoyi, il est éditeur du journal La Prospérité, quotidien qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Martel Ngoyi.
Bonsoir Guy Maté.
Albert Omba, journaliste à Numérica TV, émettant de Kinshasa. Bonsoir Albert Omba.
Bonsoir Guy Maté.
Et Madame Solange Lushikun Simire, éditrice du journal Le Souverain, paraissant à Bukavu Sud Kivu, elle est aussi vice-présidente de l'UNPC. Bonsoir Madame Solange Lushikun Simire.
Bonsoir chers confrères.
Bienvenue à tous dans cette émission. Six militaires de la garde républicaine sont tombés dans une embuscade à Rutshuru. Lundi prochain, les élèves reprendront le chemin de l'école. Comment la presse a analysé cette actualité? Suivons cette revue de presse que nous propose Alain Hirong.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par la résurgence de l'insécurité avec 6 militaires des FRDC tués dans une embuscade au Nord Kivu. Insécurité à Goma, 6 militaires tués dans une attaque. Tel est le titre à la une du quotidien La Référence Plus dans son édition du jour. Selon le journal, le véhicule qui revenait de Rutshuru a été la cible d'une roquette tirée de la brousse alors qu'elle roulait sur la route principale à destination de Goma. L'incident est survenu lundi dernier à Rugari, localité située à environ 50 km de la capitale provinciale du Nord Kivu. Le phare renchérit que 6 soldats congolais ont été tués lundi matin dans une embuscade. Une jeep de militaires de la garde républicaine est tombée dans une embuscade à Rugari. 6 militaires ont trouvé la mort, a expliqué l'administrateur du territoire de Rutshuru, Justin Mukanya. Le quotidien L'Avenir nous signale qu'en territoire de Rutshuru, une embuscade des FDLR cause la mort de 6 militaires FRDC à Karambi. Parlons à présent de la rentrée scolaire 2015-2016 qui s'annonce déjà ce lundi 7 septembre 2015 sur toute l'étendue de la République. Forum des As titre « Les parents de Kinshasa désemparés ». À 2 jours de la rentrée, les préparatifs semblent encore poser problème à plusieurs parents d'élèves à Kinshasa. Si certains ont été prudents en prenant des précautions, il n'en est pas le cas pour bien d'autres qui sursautent à la dernière minute. Plusieurs autres sujets ont fait l'actualité cette semaine. Vous pouvez lire à la une du tabloïd L'Avenir, coopération sino-congolaise, tête-à-tête Joseph Kabila, Xi Jinping, l'état des contrats chinois sous examen à Pékin, ce que corrobore La Prospérité évoquant un voyage aux grands enjeux de Kabila en Chine. Des retombées sur tous les plans sont attendues de la visite qu'effectue le président Joseph Kabila en Chine, renchérit la consoeur. L'ouverture mercredi du procès de Bosco Ntaganda se retrouve à la une également de plusieurs quotidiens quinois. Face à son destin, titre La Tempête des Tropiques, avant d'ajouter aussitôt après, persécuteur de femmes et de filles en Ituri entre 2002 et 2003, le Terminator est poursuivi pour 18 chefs d'accusation. Terminons par MONUSCO, Martin Kobler s'en va. C'est le titre qui barre la une du quotidien Le Phare. La nouvelle a été annoncée au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies tenue à Kinshasa mercredi 2 septembre 2015. En effet, le mandat de l'actuel représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC arrive à son terme le 31 octobre 2015.
Merci Alain Hirong. Commentaire Marcel Ngoyi, vous êtes éditeur du journal La Prospérité quotidien qui paraît à Kinshasa. L'actualité, comme vous l'avez suivi dans cette revue de presse que vient de nous proposer Alain Hirong, l'actualité c'est aussi la visite du chef de l'État en Chine où il a assisté hier jeudi au défilé militaire à Beijing. Mais au-delà de ce défilé, il y a des enjeux. Quels sont ces enjeux selon vous?
Bon, vous savez que l'un des plus grands péchés qu'on attribue au régime Kabila ou à l'action du président Kabila, c'est entre autres la signature des contrats chinois. Et donc, lorsqu'il faut dialoguer, c'est l'Occident qui doit appuyer et financer. Lorsqu'il s'agit de faire la redistribution des cartes, la répartition de ce qu'on peut qualifier d'intérêt, lorsqu'il faut définir ce qu'on appelle le contrat aujourd'hui gagnant-gagnant avec la Chine, avec d'autres. Donc, c'est un problème d'intérêt stratégique. Donc, vous savez qu'il y a la SICOMINE qui est une société qui a été créée, qui fait le travail dans le Katanga. Il y a beaucoup d'autres ouvrages réalisés par les entreprises chinoises. Il va de soi que la présence du président Kabila en Chine soit mise à profit pour, pourquoi pas, élargir ce type de partenariat. On a vu dernièrement Mova Sakani, le secrétaire général du PPRD, discuter aussi. On a vu le gouverneur de la ville de Kinshasa aller en Chine. Donc, la Chine aujourd'hui, c'est une piste à explorer pour pouvoir continuer ce qui a été fait durant toute cette mandature. Donc, il y a bien de dossiers comme ça sur lesquels le président et son homologue chinois peuvent traiter et pourquoi pas étendre. Vous savez aujourd'hui que la Chine, c'est la... Elle est donnée pour la deuxième superpuissance mondiale du point de vue économique. Et donc, vous avez beaucoup d'entreprises, vous avez même beaucoup de structures occidentales qui sont endettées en Chine. Exim Bank, la Banque chinoise de développement, ont prêté beaucoup d'argent à beaucoup de sociétés occidentales. Donc, il va de soi que le Congo puisse, grâce à la présence du chef de l'État, capitaliser. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'autres pays africains qui y participent. Il y en a seulement 4, dont le nôtre.
Merci, Marcel Ngoy, Albert Omba, journaliste en Amérique TV, émettant de Kinshasa. Au-delà des enjeux économiques que vient d'évoquer Marcel Ngoy, il y a certainement des enjeux politiques.
Oui, il y a des enjeux politiques parce que vous savez que le président Kabila, dans son action, a beaucoup plus impatient pour la Chine, parce que la Chine a beaucoup contribué à la reconstruction de la République démocratique du Congo. Ce qui fait que pour consolider cette politique économique, il fallait de contacts politiques pour essayer un peu de faire l'évaluation de tout ce que la Chine a pu faire à RDC. On a vu que c'est la Chine qui a contracté tout ce qui est contrat chinois, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive ici. Et il faut une suite pour ces contrats, parce que l'Occident actuellement n'a pas le courage d'investir d'une façon assez éloquente à RDC, mais par contre la Chine se donne corps et âme. Il fallait maintenant renforcer ses relations diplomatiques et ainsi de suite.
Merci Madame Solange Louchikoun Simire, éditrice du journal Le Souverain, paraissant à Bukavu Sud-Kivu. Vous êtes aussi vice-présidente de l'UNPC. L'Afrique est un enjeu majeur, n'est-ce pas, de toutes les grandes puissances. L'Occident et les puissances de l'Est veulent tous avoir la même mise sur ces continents. Et à votre avis, quelles sont les stratégies que les pays africains doivent mettre en place, n'est-ce pas, pour pouvoir gérer toutes ces ambitions?
Merci beaucoup pour la question. Moi, je pense que l'Afrique est considérée par tous ces pays-là occidentaux et même les pays de l'Asie comme étant un grenier où tout le monde peut venir s'approvisionner. Et moi, je pense que pour l'Afrique, c'est quand même un atout qui doit être bien géré. Être bien géré dans quel sens? Dans le sens où les pays africains doivent se mettre ensemble pour pouvoir offrir de leurs richesses à tous ces pays-là qui viennent les chercher en termes d'investissement. Mais également, les pays africains doivent trouver qu'ils sont vraiment des pays dans le vrai sens du mot, pour ne pas permettre à n'importe quel opportuniste de venir s'approvisionner, puiser et partir avec les richesses tout en laissant derrière lui des pauvres Africains.
Merci Marcel Ngoy. L'autre actualité, c'est l'ouverture mercredi dernier à la Haye aux Pays-Bas du procès le procureur de la CPI contre Bosco Ntaganda pour des crimes commis à Ituri. Votre réaction?
Oui, c'est. Vous savez que Bosco Ntaganda s'était lui-même rendu à la CPI après qu'il ait été très actif à Ituri et dans la province du Nord Kivu. Et le procès qui s'ouvre, c'est un procès qui va dans le cadre de ses activités à la tête des FPLC, donc Front Patriotique pour la Libération du Congo, qui est un mouvement donné pour étant l'action, l'instrument du travail des EMA. Et comme vous le savez, il y avait d'autres mouvements en Ituri, dont l'UPC Thomas Lubanga et Mathieu Goujolo. Alors, mais le procès qui s'est ouvert a pris du temps. J'ai toujours dit que la Cour pénale a de longues procédures qui prennent suffisamment de temps depuis qu'il s'est rendu il y a de cela 2 ans. C'est maintenant que le procès s'ouvre. Bon, ça c'est lié à la procédure. Mais l'action en elle-même, c'est une bonne action parce qu'elle vise à décourager tous ceux qui, impunément, pensent qu'ils peuvent à tout moment utiliser les terres congolaises, utiliser les populations congolaises comme de la chair à canon, les utiliser à des fins, jusqu'à recruter des enfants soldats et jusqu'à à manipuler, à faire des violences aux femmes, aux jeunes et tout ça. Donc moi je pense que c'est une action décisive. L'unique chose que je reproche souvent à ces pays, c'est parce qu'elle, à un moment, elle présente le visage d'une machine à sens unique qui ne vise que des Africains et ce qu'on appelle la justice internationale de vitesse. Donc on juge plus, d'ailleurs depuis que ça a commencé, il y a plus de Congolais dans cette cour que d'autres.
Il est aussi reproché à cette Afrique de pouvoir elle-même prendre des initiatives pour livrer ses enfants à la CPI.
Justement, c'est aussi ça le problème. Et pour terminer ce que je disais, que la CPI aille jusqu'au bout, jusqu'à traquer non seulement Bosco Ntaganda, mais aussi à voir qui ont été ses parrains dans cette action, aussi bien en Ituri que dans le Nord-Kivu.
Merci Albert Omba. Vous avez suivi les premiers jours de l'ouverture de ces procès où Bosco Ntaganda a plaidé non coupable.
Oui, j'espère qu'il a plaidé non coupable. Le problème ici, c'est que le procès Ntaganda est presque vidé de ce contenu.
Pourquoi?
Après le procès
Thomas
Lubanga. Vous vous souviendrez, quand on a inculpé Thomas Lubanga, il y avait beaucoup de chefs d'accusation. Il serait retombé à un seul chef d'accusation, dont il a pu écoper plus d'une dizaine d'années. Et ça sera la même chose parce que le bras droit ou le bras
exécutant
de l'IPC, c'était Bosco Ntaganda. Bon, tout ce qu'on reproche à Bosco Ntaganda, c'est ce qu'on a pu reprocher à Thomas Lubanga. Lui est responsable militaire, pendant que Thomas Lubanga est responsable politique. Bien sûr qu'il faut se partager ses responsabilités. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est un procès limité dans le temps. Tout ce qui s'est passé en Ituri ne commence pas en 2002. Pour se terminer en 2004, le théâtre de l'Ituri cache énormément de problèmes, énormément d'acteurs, et tout ça, la CPI a délimité de 2002 à 2004, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne seront pas exhumées, et Bosco pourra s'en sortir quand il aura à citer les origines de telle exaction. Je crois que ça sera un procès assez dur aussi, hein. Ça va faire beaucoup de bruit aussi.
Merci Madame Solange Lushiku Nsimire. Au Nord Kivu, la classe politique et la société civile saluent l'ouverture de ces procès et souhaitent voir des missions d'enquête descendre aussi dans les deux Kivu, où Ntaganda, alors commandant des forces rebelles du CNDP et du M23, aurait également commis des crimes graves.
Oui, on aimerait même que les enquêteurs arrivent aussi au site Kivu. Parce que le Nord Kivu et le Sud Kivu sont deux provinces sœurs. Et moi, je ne suis pas du tout étonnée qu'il plaide non coupable. C'est le propre des grands criminels. Et donc, on ne s'étonne pas. Mais nous pensons que les enquêteurs vraiment vont mobiliser toutes les preuves possibles pour les coincer. Parce que il y a quand même quelque chose qui fâche quand on se rappelle que c'est vraiment un exterminateur des femmes qui est là et qui se permet de plaider non coupable et qu'il pense que vraiment la justice internationale aussi va se taire devant sa façon de plaider non coupable. Moi, j'aimerais que ce soit une leçon qu'on va donner à tous ces violeurs, à tous ces criminels qui utilisent les femmes comme un bouclier humain, qui utilisent le corps de la femme comme champ de bataille et qui ne pensent pas à respecter les femmes congolaises comme des êtres humains.
Merci. Notre premier thème de ce soir, Nord Kivu, 6 militaires de la garde républicaine dont un officier ont été tués lundi dernier dans une embuscade à la roquette contre leur véhicule à Rugari dans une zone d'action des FDLR en territoire de Rutshuru. Selon des sources locales, leur véhicule qui venait de Rutshuru pour Goma a été la cible d'un tir de roquette. Ce véhicule a été complètement calciné selon des témoins. Les autorités locales affirment que les assaillants ne sont pas encore identifiés. Les récits de Rosalie Zawadi.
C'est aux environs de 7h30 que l'attaque a eu lieu. La Jeep de la garde républicaine a été touchée par une roquette tirée de la brousse alors que cette Jeep roulait sur la route principale entre Goma et Rutshuru avec 6 militaires à bord, dont un officier. C'était dans la localité de Rugari, à environ 50 km au nord de Goma. Selon des sources sur place, tous les occupants à bord auraient trouvé la mort. Ces mêmes sources ajoutent que des militaires FARDC venus en renfort sont pour le moment en patrouille dans la zone afin de retrouver l'ennemi qui n'est toujours pas bien identifié. Suite à cette attaque, la circulation a été interrompue pendant quelques heures pour les véhicules privés avant d'être rétablie. Cependant, la population dans ces secteurs craint à son tour d'être la cible d'hommes armés. Selon les autorités locales, les rebelles Hutu-Rwandais FDLR sont les plus actifs dans cette zone. C'est pourquoi la population demande plus de sécurité en cette période de psychose. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
L'attaque de lundi dernier sur un convoi des FARDC à Rugari dans le Rutshuru n'entame pas la détermination d'en finir avec les FDLR et d'autres groupes armés actifs dans la région, rassure les responsables de la 34e région militaire. Cependant, ces derniers ne se prononcent pas sur les bilans ni sur les causes de cette attaque qui a coûté la vie à 6 éléments de la garde républicaine. Les détails avec Gabriel Ouamenia.
Cette énième attaque qui a visé à nouveau un convoi de FARDC dans une zone hautement militarisée relance la problématique de l'insécurité dans les zones supposées sécurisées par les forces loyalistes, soulignent les habitants de Rugari. Ces derniers vivent depuis hier dans la psychose. Ils redoutent d'autres attaques dans cette zone où les soldats de FARDC sont continuellement en mouvement. Les responsables de la 34e région militaire, qui ne veulent pour l'instant ni infirmer ni confirmer les bilans de l'attaque, moins encore donner l'identité des assaillants, rassure. Les porte-parole des opérations Sokola, Kaiko Njike, dit attendre l'issue des enquêtes avant de livrer une quelconque information aux médias. Il précise qu'en dépit de ce qu'il qualifie tout simplement d'incident, les FARDC restent déterminés à traquer l'ennemi. Il reconnaît en outre que les rebelles ont adopté un autre mode opératoire pour échapper à la puissance des faits des FARDC. Rappelons que deux autres hauts officiers des FARDC ont été déjà tués dans les mêmes circonstances dans les territoires de Beni et Massissi. Goma, Gabriel Ouamenia, Radio Okapi.
Marcel Ngoï, je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Prospérité, c'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Et comment vous analysez cette attaque à la roquette contre ces militaires de la garde républicaine?
Oui, vous savez, dans l'est de la République démocratique du Congo, il y a plusieurs groupes armés, des groupes qui opèrent, qui écument, qui tuent, qui rançonnent. Et donc, c'est un problème sérieux. Quand on parle d'élections sur l'ensemble du territoire national, on parle seulement ici d'un problème de financement, de jeunes majeurs, l'enrôlement de jeunes majeurs. On voit un problème de calendrier, mais on ignore que le problème d'insécurité est aussi et surtout un problème important qui peut faire en sorte que si il n'y a pas d'autorité de l'État dans certains coins de la République, on ne peut pas avoir ces élections-là. Donc, ceci demande que l'armée que nous avons, ça soit une armée requinquée, une armée à la hauteur de ses tâches. Je regrette ici, par exemple, l'assassinat de Mamadou Ndala, un haut officier qui a fait preuve de beaucoup de témérité, de capacité, et qui a trouvé la mort au passage dans l'est du pays, qui est devenu
dans presque les mêmes conditions,
dans presque les mêmes types de circonstances. Et là, ça fait des bruits parce que c'était un général venu de Kinshasa qui a eu à patronner plusieurs opérations dans cette partie du territoire. Donc, nous disons que parce que l'est devient le ventre mou de la bourride, de la bouillabaisse, donc de l'insécurité, il y a bien moyen de maximiser, de concentrer l'essentiel des forces que nous puissions avoir pour rétablir l'autorité. Et parce qu'en fait, lorsque la MONUSCO s'associe à nos forces armées et qu'à un moment on pense à y renoncer, ça veut dire que proportionnellement, les autorités congolaises devraient prendre des dispositions pour que les FARDC restent ainsi seuls de par la décision des autorités, puissent continuer à faire leur travail de neutralisation de groupes armés. D'après les statistiques établies par la MONUSCO et ainsi que d'autres services, il y aurait dans l'est du pays plus de 42 groupes. 42, 43, 45, si pas plus.
Il y en a qui parlent de 90,
hein? Il y en a qui parlent même de plus. Plus de groupes armés dans l'est. Donc moi, ça me fait penser que la guerre n'est pas derrière nous. La guerre, à mon sens, est toujours devant nous. Parce que tant qu'on n'aura pas maîtrisé toutes les poches résiduelles de résistance de cette insécurité, on aura toujours maille à partir, même avec le processus électoral en cours.
Albert Omba, je rappelle que vous êtes journaliste à l'Imérica TV émettant des Kinshasa. Ces militaires trouvent la mort dans une zone militarisée. Vous avez suivi Marcel Ngoï qui dit qu'il y a nécessité de maximiser l'essentiel de nos forces dans cette zone, mais les éléments sont là et c'est une zone surmilitarisée. Mais cela n'a pas empêché que ces militaires puissent être la cible des assaillants.
Oui, non seulement la zone est militarisée, mais c'est une route très fréquentée. C'est une route où il y a des véhicules à tout moment qui relient Goma à Rutshuru. Donc, entre Kibati et Rumangabo, vous trouvez Rugari. Donc, vous allez expliquer comment une route où à chaque 30 ou 10 secondes il y a un véhicule, une jeep de forces armées, à l'occurrence de la garde présidentielle, soit attaquée par... Ça pose problème. Ici, ce que nous savons...
Et ce déploiement des forces ne pouvait pas être susceptible, n'est-ce pas, de dissuader ces assaillants?
C'est ça la grande question, parce que la zone dont on parle, à gauche, il y a le parc, on vous dira qu'il y a des FDLR dans le parc, à droite, c'est les FARDC qui ont occupé toutes les anciennes positions des M23, et à quelques kilomètres de là, à une dizaine, moins d'une dizaine, vous avez le camp militaire de Rumangabo. Donc c'est une zone militairement équipée, sécurisée. Ce qui fait dire aussi notre hypothèse que la jeep a été suivie. Il y a des gens qui ont signalé leur présence et ils sont attaqués à un certain niveau. Donc il y a eu des complices en dehors de la contrée où l'accident, où l'incident a été fait.
Et donc les assaillants avaient toute l'information sur les déplacements des convois.
Voilà, sur le parcours du convoi. Ça c'est une certitude. Et alors, comme Marcel l'a dit, ce que nous voulons, il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. La MONUSCO, comme les FARDC, ont lutté ensemble pour mettre fin aux groupes armés, à commencer par les plus actifs, le M23. C'était un problème fini. On est allé à Def Nalu, c'est presque fini. Maintenant, au troisième groupe des FDLR, qui sont le groupe le plus embêtant avec des méthodes trop guérilla, ce n'est plus la méthode comme M23 où on a des troupes à gauche et à droite, oui, la grecque classique.
Et qui ont aussi l'avantage de maîtriser les terrains.
Oui,
parce qu'ils sont là, ils sont établis là depuis plusieurs années.
Plus d'une quinzaine d'années, ils sont là. Ils maîtrisent les terrains, ils maîtrisent la population, ils se confondent à la population. Donc, il faut une force, une conjugaison d'une force de la MONUSCO et des FARDC pour mettre fin une fois à cette histoire de FDLR. On ne peut pas avoir des débats. Oh, il y a autant qui sont partis, autant finalement, on ne trouvera pas une solution. Et quand on aura terminé avec les FDLR, tous les Maïmaï et consorts, les quarantaines de groupes vont se dissoudre d'eux-mêmes.
Merci Madame Solange Lochikoun Simire, éditrice du journal Le Souverain, paraissant à Bukavu au sud Kivu, et aussi vice-présidente de l'UNPC. Les assaillants ne sont pas encore connus selon les autorités locales, mais certains experts, compte tenu du mode opératoire, l'attaque à la roquette, formulent des hypothèses selon lesquelles ça pourrait être la FDLR ou les éléments FRDC dans le cadre d'un règlement des comptes, ou encore une milice proche du Rwanda.
Oui, toutes ces idées pourraient être vraies, dans la mesure où, comme le premier intervenant a dit, c'est une zone fortement militarisée. Mais je dois indiquer ici que, selon notre correspondant au Nord Kivu, le correspondant du journal Les Souverains, il y a eu 6 militaires de la garde républicaine qui ont été tués, 3 ont été blessés, et 3 s'en sont sortis indemnes au moment où ils étaient partis pour un ravitaillement à Goma. Et donc, jusqu'à présent, on ne sait pas ce qu'ils ont emporté comme butin. Peut-être après que l'armée est descendue sur les lieux pour apprendre de la bouche de la population que les assaillants, je m'excuse, auraient passé la nuit dans une église avant de commettre les forfaits. Et c'est une église semblable à celle du dit pasteur Kundabatware, personne ne sait, mais il me semble que la population qui avait des affluents et des retours, et la vie reprend petit à petit. Mais par rapport à la question des FDLR, moi je me suis toujours posé la question de savoir, est-ce que aussi nombreux qu'ils puissent être, est-ce que les FDLR sont plus nombreux que les FRDC? Si ce n'est pas le cas, pourquoi les FRDC, ensemble avec la MONUSCO, ne peuvent pas se mettre ensemble pour les chasser, les mettre hors d'état de nuire, une fois pour toutes. Parce que chaque fois, ça c'est de l'air, ça c'est un autre groupe armé, et le groupe armé qui met chaque jour comme des champignons, et après on ne connaît même plus les nombres.
Oui, Marcel Goyer, vous venez suivre Madame Solange Lusikou qui relève cette problématique sur les nombres. Les FARDC ont la suprématie numérique par rapport au FDLR, qui sont estimés selon certaines sources à 1200-1500 éléments. Mais comment on explique le fait qu'on soit incapable depuis plusieurs années de les déloger?
Oui, le FDLR, c'est un phénomène qui remonte à 1994. Et c'est depuis quand il y a eu ce qu'on a appelé génocide du Rwanda. Et leur problème est un problème simple. Le problème, c'est que quand Kagame arrive au Rwanda à la tête du pays, il amène le Tutsi. Et le Hutu rwandais, qui était au pouvoir avec Habyarimana, fuit. C'est la communauté internationale ici qui avait demandé au Congo d'ouvrir ses frontières. Et sur demande de la communauté internationale, on a pu accueillir les FDLR ici. Et depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, comptez les années, ça fait pratiquement 21 ans qu'ils sont là. Ils ont, à l'époque, amené femmes et enfants, ils ont procréé, ils se sont installés.
Ils sont donc même mêlés à la population.
Donc leur problème, les FDLR ne sont pas à regrouper quelque part pour dire qu'ils sont là-bas. Ce sont des forces disparates. Ce sont des forces qui se sont muées, qui se sont distillées ou qui ont inféodé les populations congolaises.
Et donc, c'est-à-dire s'il faut mener des opérations, des graines en verdure, on aura beaucoup de victimes dans la population.
Nous pensons que la délicatesse de la question du FDLR exige un maximum de parcimonie, de doigté, de sens, de bien faire, ce qui suppose une conjugaison des forces, ce qui suppose que du côté de ceux qui les attaquent, il faut y aller avec beaucoup de prudence, parce qu'il y a moyen de retrouver derrière les FDLR des pans entiers de population congolaise qu'on décime, soi-disant qu'on a tué les FDLR alors qu'on a tué les Congolais. Donc ce sont des forces disparates qui se déplacent, qui vont jusqu'à se réfugier dans des montagnes. Lorsqu'on les poursuit d'un côté, ils se réfugient à l'intérieur du Congo en explorant des zones qu'ils maîtrisent très bien. Donc il faut y envoyer des personnes entraînées, des personnes qui ont la capacité d'en finir, d'anéantir. Mais il faut y aller méthodiquement. Lorsqu'on les prend, on les loge dans la province orientale. Ils sont bien logés, soutenus, ils ont du courant et tout ça. Mais quelle est la finalité des FDLR qu'on a regroupés à Kisangani? Vont-ils un jour ou pas rentrer au Rwanda? Parce qu'au Rwanda, on les attend, non pas pour discuter avec eux, mais on les attend pour que, d'une manière ou d'une autre, qu'ils puissent être, on les considère comme des génocidaires.
Merci. Donc, Albert Rumba, et à travers cette attaque, est-ce la garde républicaine qui était visée ou ce sont les FARDC qui étaient visés?
La garde républicaine fait partie du FARDC. C'est la garde qui a été visée parce que, comme la conseillère vient de dire, ils étaient en mouvement de ravitaillement à Goma, c'est au retour. Donc ce sont des gens qui ont été suivis de très près. Leur parcours a été suivi jusqu'à ce qu'on est arrivé à ça. Donc c'est précisément la garde républicaine qui a été visée. Et si nous revenons au problème de FDLR, comme vient de dire Marcel, c'est un problème qui demande de conjuguer. Les FDLR sont éparpillés. Le gouvernement congolais a essayé de les détecter chaque endroit où ils sont. La MONUSCO a fait la même chose. Pourquoi on ne peut pas prendre la conjugaison de ces deux forces pour mettre fin une fois pour toutes au phénomène FDLR? Parce que jusqu'à aujourd'hui, les retours au Rwanda, les conditions que les FDLR ont posées n'ont pas été exécutés, n'ont pas été acceptés par la communauté internationale.
De dialogue interrwandais.
Voilà, là c'était rejeté. Ils avaient quatre conditions. La première qui est de créer l'espace, ça a été rejeté. La seconde, ils ont demandé, c'est que ceux qui ne peuvent pas aller au Rwanda, qu'ils soient amenés dans d'autres pays africains en dehors du Congo. Mais il n'y a aucun pays africain qui s'est porté garant pour leur transfert. Ça c'est de deux. De trois, le gouvernement congolais qui a demandé à leur accorder 6 mois. Après les 6 mois, ils devaient trouver un mécanisme pour les forcer à quitter le lieu où ils étaient pour se rendre. Parce que maintenant, ça bloque ceux qui sont à Kisangani. Ils ne savent pas où aller. Il n'y a pas d'issue. On n'a même pas accès là-bas pour connaître, même si Marcel dit qu'ils sont avec du courant. En tout cas, aucun journaliste n'a accès au site de Kisangani pour savoir leur sort.
Madame Solange Luchiku Simire, que faut-il pour pacifier cette partie du pays?
Bon, quand on dit que les FLR, ils sont devenus des spécialistes de la forêt, ils sont dans la population, ils sont en forêt, et que c'est des gens qui se sont même tropicalisés par rapport au milieu où ils interviennent. Moi, je dirais que c'est une façon de montrer encore notre incapacité de poursuivre et de chasser ces FLR.
Et à votre avis, qu'est-ce qu'il faut pour pacifier cette partie du pays?
Oui, si je ne me trompe pas, nos FRDC, ils sont composés aussi de plusieurs anciens membres des groupes armés qui ont fait des ravages ici dans l'est du Congo. On a vu comment ils ont été recrutés dans les FRDC, comment ils ont eu des galons. Donc, eux aussi, ils maîtrisent la forêt. Et pourquoi on ne peut pas aligner ces gens-là qui maîtrisent les tactiques de guerre en forêt, qu'ils soient là devant et qu'ils soient accompagnés des autres pour aller chasser ces FDMR de la RDC. Moi, je ne pense pas que ce soit une question liée au fait qu'ils soient en forêt, que nos FRDC ne sont pas habitués, mais c'est peut-être une question de volonté. Si aujourd'hui, le gouvernement congolais peut se lever en disant aujourd'hui, nous devons en finir avec les FDLR, en mettant toutes les stratégies qu'il faut ensemble, en demandant même à la population de coopérer, en mettant au devant de la scène ces militaires-là, FRDC, qui connaissent bien la forêt. Je pense qu'on ne peut même pas faire 48 heures.
Merci, madame.
Même qu'ils soient éparpillés dans la forêt, que ce soit au nord qui vous ou au sud qui vous.
Merci, donc un problème de volonté. Nous passons à notre deuxième thème de ce soir. La rentrée scolaire intervient lundi 7 septembre prochain sur toute l'étendue de la RDC. L'heure est aux préparatifs tant du côté des parents, des élèves que des écoles. Du côté des établissements, les préparatifs varient selon les écoles, les moyens financiers notamment faisant la différence. Et côté enseignement, certains chefs d'établissement et autres enseignants sont presque prêts, alors que d'autres procèdent à l'achat du matériel. Comment les établissements se préparent-ils à accueillir les élèves la semaine prochaine? Babène Pongo Massimango a visité quelques écoles de la capitale, suivant ce reportage rendu par Paul Matendo.
Les établissements qui le peuvent ont effectué quelques travaux de rénovation. Un peu d'asphalte ou de béton ajoute des salles de classe, de nouveaux bancs. Ça, c'est dans les établissements privés et certaines grandes écoles conventionnées. Beaucoup se contentent de rafraîchir la peinture totalement ou en partie suivant les moyens disponibles. Ce constat est perceptible au collège Saint-Joseph à la gare centrale où entre-temps les parents passent pour l'achat des livres. C'est aussi le cas à l'Institut de l'Amitié, Makelele 1, Mont des Oliviers et Angu à Bandal. Ailleurs, notamment à Haïti, Totani et à l'Institut Rwakadingi de Barumbu, deux travailleurs munis de poubelles, balais et seaux arrosent les sols carrelés avant le nettoyage. À l'épée 1, 3, 4, 6 et 12 Ngiringirim, la peinture s'est fait attendre pendant que l'herbe, haute d'une trentaine de centimètres dans la cour de l'épée 3 et 4 notamment, n'a pas dit son dernier mot. Les travailleurs vont tout couper avant lundi, rassurent les responsables. À l'épée 12, le seul enseignant trouvé sur plein de n'avoir enregistré que 8 inscriptions et de l'absence des parents même pour le retrait du bulletin de l'année passée.
Albert Kumba, journaliste à Numérica TV, mettant de Kinshasa, nous sommes à 2 jours de la rentrée scolaire. Quel est votre sentiment en tant que parent?
Bon, un sentiment de tristesse, comme toujours. Vous savez que chaque fois à la rentrée scolaire, les parents sont tourmentés, ils connaissent une période assez difficile, parce qu'ils doivent réunir les moyens à gauche et à droite pour subvenir aux besoins des enfants. D'abord, empirer les dettes de l'année passée pour ceux qui n'avaient pas terminé les frais scolaires et réunir le matériel, le cahier, tout ça. Ça vous fait un casse-tête quand on doit comparer avec l'assiette salariale qui est presque diminuée avec un grand nombre aussi de débrouillards qui n'ont pas du travail. Donc c'est une casse-tête effectivement pour les parents, cette rentrée académique. Bon, malgré que elle n'est pas encore effective, mais vous verrez qu'il n'y a pas d'engouement, même au marché, partout on devait acheter du matériel scolaire, et il n'y a pas d'engouement, c'est-à-dire que les gens n'ont pas le moyen financier.
Marcel Ngoï, éditeur du journal La Prospérité, quotidien qui paraît à Kinshasa, à la veille de la rentrée scolaire 2015-2016, la prise en charge des enseignants par les parents est toujours démise, et les parents s'en plaignent, étant donné que c'est un véritable fardeau pour les parents dont les conditions de vie sont précaires.
Vous savez que la jeunesse, les enfants, c'est la base même pour la société de demain. La jeunesse, on vous dit toujours, c'est l'avenir. Mais non, c'est le devenir de la nation. C'est sur cette jeunesse qu'il faut poser les bases de la société pour que cette société, un jour, puisse aspirer à l'émergence, comme on le dit. Et l'éducation, en termes d'éducation, d'instruction ou d'études primaires, secondaires, maternelles, occupent une place de choix dans la revitalisation de notre société. C'est à ce niveau-là qu'il faut que le gouvernement joue son rôle. Mais malheureusement, il y a des décisions qui sont prises, mais parfois qui ne sont pas très suivies, très appliquées. La prise en charge des enseignants par les parents continue, alors qu'à un moment, on avait semblé dire que c'est une pratique qui pourrait appartenir à un autre âge. Il y a la gratuité de l'enseignement qui avait été décrétée.
Cette gratuité, et qui est même constitutionnelle.
Et qui est même constitutionnelle, mais qui ne semble pas avoir d'effet sur le panier de la ménagère. Donc, il y a...
Qui n'est pas appliqué.
Qui n'est pas appliqué du tout. Et donc, nous avons là des décisions d'État qui ne sont pas appliquées. Et donc, au-delà de la souffrance à laquelle la population est confrontée, liée naturellement à la modicité de salaire, même au dérèglement de l'ensemble du système, administratif et tout ça. Donc moi je pense qu'il y a là de préalables que le gouvernement devait résoudre avant même cette rentrée scolaire. Il y a aussi cette affaire de la motivation des enseignants. Les enseignants qui viennent, eux sont aussi parents. Ce sont des êtres qui méritent, surtout ceux qui sont dans des écoles publiques et ceux qui sont dans des écoles conventionnées. Qui mérite un traitement de qualité pour qu'ils puissent dispenser un enseignement de qualité. Donc si vous voulez que demain, que des enfants puissent bénéficier d'une formation de qualité, il faut que l'enseignant qui vient vient enseigner puisse être motivé et qu'il travaille aussi dans les meilleures conditions. Il y a là le problème de la réhabilitation des infrastructures. Mais toutes ces structures-là, toutes ces choses bénéficient de l'encadrement de l'UNESCO, de beaucoup de structures internationales qui aujourd'hui n'arrivent plus à faire aussi, à accomplir leur part de contrat en amenant aussi une contribution comme c'était prévu.
Madame Solange Jalofiku Nsimira, éditrice du journal Le Souverain paraissant à Bukavu Sud Kivu, aussi vice-présidente de l'UNPC. Vous avez suivi Marcel Ngoï qui a rappelé que la jeunesse est le devenir de la nation. Vous êtes à l'est du pays où l'insécurité qui sévit dans certaines localités rend cette rentrée hypothétique. Comment vous entrevoyez la rentrée scolaire à l'est de la RDC?
Oui, merci. La rentrée scolaire à l'est de la RDC, bon, elle est presque pareille à d'autres provinces du pays. Sauf qu'en province du Sud Kivu, il y a certains éléments qui cadrent avec le contexte. Il y a d'abord le fait qu'il y a un peu d'agitation au sein des syndicats des enseignants qui appellent tous les enseignants à se rencontrer le dimanche prochain pour décider si rentrée scolaire il y aura ou pas. Donc chez nous, c'est encore hypothétique. Ces enseignants revendiquent ils ont la même revendication. Ils voudraient voir les enseignants classés dans la catégorie des non payés ou nouvelles unités ou encore les zones de listing être alignés aussi pour avoir ce salaire-là des misères que reçoivent nos enseignants. Il y a également Madame Lapluie, qui est vraiment géniteur de la boue au site Kivu, qui est très présente depuis quelques jours. Et donc, aux côtés de l'uniforme et les objets scolaires et tout ce que les parents doivent acheter, il y a aussi l'obligation tacite d'acheter aussi des tricots ou des parapluies pour les enfants.
Merci. Albert Romba, qu'y a-t-il pour que tous les parents soient en mesure d'envoyer leurs enfants à l'école lundi prochain? C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'enfants qui restent à la maison tout simplement parce que les parents n'ont pas été en mesure de les envoyer à l'école par manque de moyens.
C'est difficile que tous les enfants aillent le lundi à l'école. Il y a beaucoup, une grande partie qui va rester à la maison. Et pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, et Marcel a dit, la concerne aussi la précarité du salaire. Parce que, comme vous le savez, pourquoi il y a motivation? Motivation, c'est parce que les parents doivent contribuer, en dehors de frais d'études, de frais minervales, ils doivent contribuer à la paye du transport des enseignants. Ce qui fait que les montants qu'ils doivent payer dépassent de loin même leur salaire. Et tant qu'ils n'ont pas payé, ils n'ont pas contribué, et ils n'ont pas réuni ces montants, l'enfant ne peut pas commencer les cours. Parce que pour qu'il soit accepté à l'école, il faut qu'il soit en ordre de paiement des frais et des contributions des parents avec tout le sort qui fait que, réellement, une grande partie d'enfants n'iront pas lundi à l'école.
Marcel Moyer, Albert Romba vient d'affirmer que c'est difficile que tous les enfants aillent à l'école lundi prochain, mais c'est pas impossible. Il y a possibilité de tout faire pour que tous les parents soient en mesure d'envoyer les enfants à l'école.
L'idéal est que tous les enfants aillent à l'école. Mais le contexte, les difficultés, les contraintes, les obstacles, vous pouvez les appeler comme
on
vous.
On ne peut pas contourner ces obstacles et ces contraintes.
Pour le faire, il y a la responsabilité des parents.
Et de l'État aussi.
Et il y a la responsabilité de l'État. Il y a la responsabilité des écoles. Il y a la responsabilité des élèves. Donc, il y a là, en amont, des dispositions qui auraient dû être prises. Et donc, c'est un problème de politique nationale en matière d'éducation. Vous savez que si aujourd'hui on déplore qu'il y a des Kuluna, il y a des Pomba, il y a des gens qui ont une éducation ratée, c'est parce que, en grande partie, il y a déficit en matière d'instruction. Parce que quelqu'un qui compte sur ses études, il sait qu'il a entre ses mains la clé de voûte qui peut lui permettre d'accéder, d'entrer partout. Mais lorsqu'on n'a pas étudié, on peut se réfugier derrière les biceps. On peut se réfugier derrière des actes de vandalisme. C'est comme ça, vous voyez, des gens qui s'adonnent à la débrouillardise, qui ne pensent pas, qui ne sont pas optimistes. Donc, la responsabilité de l'État, des parents, des élèves, des écoles, et même de l'Église, en ce qui concerne la moralisation, ce sont des responsabilités qui doivent être assumées. Et il ne faut pas attendre la veille de la rentrée scolaire pour emboucher les trompettes, nous parler de la rentrée scolaire pour souhaiter que les enfants aillent. Non, ce sont des dispositions qui doivent être prises à tous les niveaux. Donc il ne faut pas se rejeter mutuellement la balle, chacun doit s'assumer.
Madame Solange Luchikou Simire, que faut-il pour que tous les enfants aillent à l'école lundi prochain?
Vous parlez lundi prochain. Moi, j'ai pensé que vous alliez poser la question de savoir que faut-il faire pour que tous les enfants congolais aillent à l'école. Mais comme il s'agit de lundi prochain, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il faut encourager les parents à envoyer leurs enfants à l'école au plus Kivu au moment où le syndicat risque de dire le contraire le dimanche. Je ne sais pas si à travers le pays, il faut demander à l'Église, comme l'a dit mon prédécesseur, et aux enseignants de faire tout pour que les enfants étudient au moment où eux, comme enseignants, ils vivent aussi dans la précarité et ils sont en même temps aussi parents, ils peuvent aussi payer pour leurs enfants.
Merci madame.
Je ne sais pas, en tout cas je n'ai pas une réponse que l'élève a donnée à cette question-là, mais j'en appelle encore une fois à la responsabilité de l'État congolais, que l'État se souvienne que ces enfants-là, ces jeunesses-là, est vraiment l'avenir de notre pays.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Sylvain Matundu qui était à la technique, à Alain Hirung à la réalisation sous la supervision des Pélé Kipé Lamondo, à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Okapi.